Lizzie présente Khalil de Yasmina Kadra, lu par Cédric Dumont. Pour accéder à la postérité, nul besoin d'être un héros ou un génie. Il suffit de planter un arbre. Première partie, les oiseaux d'Ababil. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage afin qu'on voie ta honte. Jérémie, chapitre 13, verset 26. Chapitre 1. Paris, ville lumière. Qu'un seul de ces lampadaires s'éteigne et le monde entier se retrouve dans le noir. Nous étions quatre kamikazes. Notre mission consistait à transformer la fête au Stade de France en un deuil planétaire. Serrés dans la voiture qui nous transportait à vive allure sur l'autoroute, nous ne disions rien. Il y avait deux frères que je ne connaissais pas. Un devant, avec Ali, le chauffeur, l'autre sur la banquette arrière à côté de Driss, et moi. Le frère de devant avait glissé un CD dans le lecteur de bord, et depuis, nous ne faisions qu'écouter Cheikh Saad El Ghamidi déclamer les sourates, la voix aussi pénétrante qu'un envoûtement. Je n'ai jamais entendu quelqu'un réciter le Coran mieux que ce savant de l'islam. Ce n'était pas des cordes vocales qu'il avait, mais un arc-en-ciel chantant dans la gorge. Je crois que nous en étions émus aux larmes, sauf peut-être Ali, qui semblait nerveux derrière son volant. J'essayais de me distraire en contemplant la campagne. La voix de Liès revenait sans cesse me rappeler à l'ordre. « Tu veux finir comme Mocha ?» Mocha était un peu l'idiot de Molenbeek. À 60 ans, il demeurait le même gamin des faubourgs, où les nuits arrivent trop vite. Le veston en cuir garni de pins, le jean déchiré aux genoux, il était persuadé que l'âge n'avait pas de prise sur lui. Sa passion, c'était les galopins, qu'il retrouvait tous les jours au Parc des Muses pour leur raconter ses 400 coups revus et corsés à l'envi, sans se douter que son jeune auditoire n'était là que pour se payer sa tête. Personne ne souhaitait finir comme Mocha, en ivrogne déglingué, avec du flou dans les yeux et une cervelle en berne. « Regarde derrière toi et dis-moi ce que tu vois. » Nous étions dans un kebab à mordre dans nos sandwichs. J'avais jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. « Imbécile !» avait pesté Liès, la bouche dégoulinante de jus. « Je te montre la lune et tu regardes mon doigt. C'est de ton passé qu'il s'agit. Qu'as-tu fait de ta chienne de vie ? Que dalle ! Derrière toi, il n'y a que du vent. À 5 ans, tu traînais dans les rues. 10 ans après, tu crapahutes encore sur place. Tu n'as jamais risqué un pas à l'extérieur de la case départ. Tu sais ce qu'il arrive aux types qui attendent ce qu'ils n'osent pas aller chercher ? Ils ne vivent pas. Ils pourrissent sur pied. À l'époque, l'adolescent Liès n'avait ni Dieu ni prophète. La religion lui était aussi étrangère que ces formules mathématiques qui vous court-circuitent les neurones avant que vous ayez fini de les recopier sur le cahier. Il n'était qu'un mal luné de 17 ans qui ne savait rien faire de ses 10 doigts, à part mettre son poing dans la figure d'un gars de la cité d'en face, ou bien montrer son majeur à un vigile trop curieux. Il nous en voulait, à nous, les paumés du quartier, de n'avoir, pour les lendemains, qu'une placide indifférence. Il ignorait lui-même ce qu'il attendait de nous. Mais le fait de nous voir et s'aimer autour de ce bougre de Mocha à longueur de journée le rendait malade. C'était sans doute pour ne plus avoir Liès sur le dos que Driss et moi avions cessé de fréquenter le vieux hibou en blouson de cuir. Une manière de prouver, à l'un et à l'autre, que nous avions grandi. Mocha, lui, était resté le môme de toujours, et d'autres mioches désœuvrées avaient pris nos places. Malgré notre bon vouloir, Liès ne décolérait pas. En aîné sourcilleux, il avait immanquablement un reproche à nous décocher. Quelque chose clochait chez lui. Son père avait à maintes reprises songé à l'interner. Eh bien, tout ça était fini. Camille, ses barbes rougies au aîné, Liès avait trouvé sa voie et occupait le rang d'émir, creux chef de guerre. Il avait appris à dire les choses sensées avec talent, à n'exiger des autres que ce que lui était capable d'entreprendre. Et quand il lui arrivait de hausser le ton, je m'abreuvais sans modération à la source de ses lèvres. Il m'avait éveillé aux indicibles beautés intérieures et avait fait de moi un être éclairé. Ma chienne de vie, je l'avais roulée dans un torchon et jetée au caniveau. Ce que je laissais derrière moi ne comptait pas. Le meilleur de moi-même était au bout de cette route qui filait droit, aussi euphorique qu'un tapis volant. Ali conduisait les yeux fermés, sans carte ni GPS. Il avait été chauffeur de taxi dans une vie antérieure. Maître de l'anticipation, Ali ne risquait jamais un pied quelque part avant de s'assurer qu'il n'y avait pas de mine sous le pavé. Pour brouiller les pistes, il avait mis une annonce de covoiturage sur le net et attendu que 4 candidats au voyage l'appellent pour verrouiller son téléphone. En cas de grabuge, la messagerie de son portable prouverait aux enquêteurs potentiels que notre transporteur pratiquait souvent le covoiturage pour payer le carburant et qu'il n'était pas habilité à fouiller les sacs de ses passagers. Ali n'était pas un ami. J'avais effectué 3 commissions avec lui. Comme il était taiseux, j'ignorais où il logeait et quel était son vrai nom. Je savais seulement, grâce aux indiscrétions de Ramdan, que depuis qu'il avait perdu sa licence de taxi, il travaillait au noir et effectuait parfois, pour l'effort de guerre, des navettes Bruxelles-Alicante-Bruxelles, quelques kilos de cannabis dissimulés dans la roue de secours. Lies le sollicitait occasionnellement pour lui confier un ou 2 frères en partance pour le djihad, ou pour le charger de récupérer un ou 2 revenants de Syrie dans tel ou tel trou perdu en France ou en Hollande. Ali ne se dépensait pas pour la cause. Il monnayait ses services. Si ça ne tenait qu'à moi, je cracherais 7 fois sur le revers de ma main gauche pour ne pas avoir à emprunter le même trottoir que lui. Sauf que le fumier avait un avantage de taille. Il était secret, méthodique, efficace, et il n'était fiché nulle part. Je n'avais jamais été à Paris. Ma tante maternelle y résidait pourtant. Nous n'étions pas très proches, sa famille et la nôtre. Il nous arrivait de nous croiser au bled certains étés, sans plus. Ma mère trouvait que sa sœur nous prenait pour des provinciaux crottés. En réalité, elle la jalousait. Ma tante avait bien négocié sa vie. Elle habitait un beau quartier donnant sur la Seine, et malgré son veuvage prématuré, elle avait fait de ses 2 filles un médecin et une architecte, et de son fils un banquier, alors que ma jumelle Zara, à peine mariée, avait été répudiée sans ménagement au bout de quelques mois, et que Yedza, ma grande sœur, trimait dans un atelier clandestin à 70 kilomètres du bercail, tandis que moi, le garçon, le mâle, celui qui se devait de faire la fierté de son père, je n'avais même pas été fichu de tenir 2 années de suite au lycée. Ce vendredi 13 novembre 2015, c'était la première fois de mon existence que je m'aventurais sur les terres de France. Hormis les excursions scolaires qui m'avaient fait découvrir Rotterdam et Séville, il y avait 8 ou 9 ans, je ne quittais mon quartier que pour un douar du massif marocain de Cap Dana, dans la région du Nador, natale de mes parents. 1 été sur 2, lorsque mon père parvenait à mettre un peu d'argent de côté. De la Belgique, je connaissais Liège, où j'avais effectué un stage professionnel de 9 mois, 2 ans plus tôt. Charleroi, Anvers, Mons, où ma sœur aînée s'abîmait les doigts et les yeux sur des machines à coudre. Et quelques fermes isolées sur la frontière est du pays, pour les besoins de l'association. C'était donc avec un sentiment diffus que je quittais la Belgique, en sachant que mon voyage ne relevait ni d'une excursion scolaire, ni d'une villégiature. Je n'éprouvais qu'un vague vertige à mi-chemin entre l'ébriété et l'insolation. Je me rappelle un vieil ami de mon père qui venait parfois dîner chez nous à la maison. Il était veuf et sans enfant. Quand il était éméché, il nous certifiait que l'âme est immortelle et qu'elle occupe indûment notre chair comme un corps étranger, raison pour laquelle notre organisme développe une addiction pour tout ce qui le détruirait afin de la conjurer. Il n'avait pas tellement tort, l'ami de mon père. Tandis que je me dirigeais vers mon destin, j'avais le sentiment que mon âme et mon corps étaient en froid l'un avec l'autre.